et moi, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire Des coups au cœur, proposée par l'association Littéra 05. Anne-Marie sélectionne pour vous les bouquins des livres nomades et vous donne l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour, nous voici donc à nouveau pour une nouvelle émission des coups au cœur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Bérangère Cournu qui s'appelle De pierre et d'os. Il a été édité par le Tripode en 2019. C'est un livre tout récent. Bérangère Cournu est venue le présenter à Manosque, aux correspondances de Manosque, et nous l'avons écouté. Dans son roman précédent, qui s'appelait « Née contente à Orebi », Bérangère Cournu nous faisait découvrir la culture des Indiens Hopi, un groupe amérindien d'Amérique du Nord, donc, voisin des Navajos. Les Hopi vivent dans le nord-est de l'Arizona, une région très, très aride. Et en 2019, donc, avec De pierre et d'os, ce sont les Inuits qui seront au centre de son roman. Elle a bénéficié pour ce roman d'une résidence d'écriture de 10 mois au sein des bibliothèques du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et donc, contrairement à Née contente à Orebi, sa fiction consacrée aux Indiens Hopi, pour laquelle justement elle avait voyagé dans l'Ouest américain, ici donc, pour De pierre et d'os, elle n'a jamais mis les pieds en Arctique. En revanche, elle a épluché tout ce qui se rapportait au Groenland, pendant justement sa résidence d'écriture au Muséum d'Histoire Naturelle. Ce roman nous permet de découvrir l'ancien monde des Inuits qui n'a rien à voir avec leur monde actuel. Je vous lis la note préliminaire. Les Inuits sont les descendants d'un peuple de chasseurs nomades se déployant dans l'Arctique depuis un millier d'années. Jusqu'à très récemment, ils n'avaient d'autres ressources à leur survie que les animaux qu'ils chassaient, les pierres laissées libres par la terre gelée, les plantes et les baies poussant au soleil de minuit. Ils partagent leur territoire immense avec nombre d'animaux plus ou moins migrateurs, mais aussi avec les esprits et les éléments. L'eau sous toutes ses formes est leur univers constant. Le vent entre dans leurs oreilles et ressort de leur gorge en souffle rauque. Pour toutes les occasions, ils ont des chants qu'accompagne parfois le battement des tambours chamaniques. D'ailleurs, à la fin de son roman, Bérangère Cournu écrit, pour montrer justement la différence avec le peuple inouï d'il y a de nombreuses années et le peuple actuel, « Des hommes blancs sévères, aux sourcils épais, sont venus jusqu'à notre territoire. Ils ont changé les habitudes et les jugements de nos enfants. Je ne les ai pas connus, mais on m'a raconté comme ils étaient certains de savoir ce qui était bon pour nous. Ils ont voulu faire passer les chamans pour des menteurs et ils nous ont donné honte d'avoir cru si longtemps à leurs histoires. Les blancs sont aveuglés par la poudre quand il neige, mais ils savent mieux que nous d'où viennent les bruits, le gibier et le vent. Sauf que sans nous, ils se perdent. Dans le grand blanc d'ici et même dans leur pays, ils viennent, ils s'imprègnent, et puis un jour ils repartent et s'enfouissent dans leurs terres lointaines. Ils noircissent des milliers de pages à notre propos, que d'autres reprennent pour leur propre gloire, sans avoir jamais posé un pied sur Nuna, notre territoire. Ces gens habitent et colonisent un imaginaire qui ne leur appartient pas. Alors, De pierre et d'os nous plonge dans le destin d'une jeune femme inuite, justement. Je vous lis le début du livre. C'est la troisième lune depuis que le soleil a disparu derrière la ligne d'horizon. Et la première fois de ma vie que j'ai si mal au ventre. Me décoller du corps chaud de ma sœur et de mon frère, me dégager des peaux qui nous recouvrent, descendre de la plateforme de glace. Sous son dôme, ma famille ressemble à une grosse bête roulée sur elle-même. D'ordinaire, je respire comme tous du même grognement de mon père, mais cette nuit, une douleur me déchire et m'extrait. Enfiler un pantalon, des bottes, une veste, me glisser hors de la maison de neige. L'air glacé entre dans mes poumons, descend le long de ma colonne vertébrale, vient apaiser la brûlure de mes entrailles. Au-dessus de moi, la nuit est claire comme une aurore. La lune brille comme deux couteaux de femme assemblés, tranchant sur les bords. Tout autour court un vaste troupeau d'étoiles. La lune, faible et bleutée, qui tombe du ciel, révèle sous moi un liquide sombre et visqueux. J'approche mon nez de la neige, on dirait que mon ventre délivre du sang et des foies d'oiseaux. Qu'est-ce encore que cela ? Penché sur la flaque, je n'ai pas entendu le grondement au loin. Lorsque je sens la vibration dans mes jambes, il est trop tard. La banquise est en train de se fendre à quelques pas de moi. L'igloo est de l'autre côté de la faille, ainsi que le traîneau et les chiens. Je pourrais crier, mais cela ne servirait à rien. L'énorme craquement a réveillé mon père. Il se tient torse nu devant l'entrée de notre abri. Portant la main à sa poitrine, il me lance sa dent d'ours accrochée à un lacet. Il me jette également un lourd paquet au bruit mat. C'est une peau roulée serrée. Le harpon qui l'accompagnait s'est brisé sous son poids. J'en récupère le manche, tandis que l'autre partie s'enfonce dans la soupe de glace. Disparaissant lentement, la flèche fait un bruit étrange de poisson qui tète la surface. La silhouette de ma mère se dresse maintenant aux côtés de mon père. Ma sœur et mon frère sortent l'un après l'autre du tunnel de l'igloo. Nous ne disons rien. Bientôt la faille se transforme en chenal, un brouillard s'élève de l'eau sombre. Petit à petit, ma famille disparaît dans la brume. Le cri de mon père imitant l'ours me parvient de plus en plus lointain jusqu'à s'éteindre tout à fait. Un silence lugubre envahit mes oreilles et me raidit la nuque. Avant que le brouillard n'engloutisse tout, je ramasse l'amulette et la passe autour de mon cou. À quelques pas de là, gît la peau roulée, c'est celle d'un ours. Par chance, mon couteau en demi-lune est resté dans la poche de ma parka. J'utilise son manche en ivoire pour dénouer les liens. Le harpon va me manquer cruellement. Mon père devait être ému pour rater un tel lancer. Le brouillard qui sort de la faille s'épaissit à présent. La lumière de la lune n'est plus qu'un halo diffus. Je dois me diriger à l'oreille en me fiant au bruit de l'eau et des glaçons. Le manche du harpon me sert à sonder la glace devant moi et ne pas passer au travers. Soudain, un crissement attire mon attention. Craignant un nouvel effondrement, je m'allonge. Et j'attends. Si une crevasse se forme sous moi, elle ne fera pas tout de suite la taille de mes membres écartés. Bizarrement, le bruit se prolonge, mais ne se déplace pas. On dirait que quelque chose remue quelque part. Ça grogne, ça souffle, ça fouille. Mon cœur se serre, et s'il s'agissait d'un esprit lancé à ma poursuite. Et si cet être maléfique abattait sur moi son énorme bras pour m'écraser comme un moustique ? Tout en sachant que c'est dérisoire, je rabats la peau d'ours sur ma tête et continue de guetter par en dessous ce qui se passe. À quelques pas, la neige se soulève comme une vague. Un frisson d'épouvante me parcourt l'échine. Pour finir en sursaut de joie, c'est Ikasuk qui se dresse devant moi, la meilleure chienne de mon père. Elle et quatre jeunes chiens devaient être enfouis là, sous un monticule de neige, lorsque la banquise s'est fendue. Ils aboient. Le reste de la meute répond au loin, mais le vent couvre bientôt ses voix fantomatiques. Je suis seule, avec cinq chiens fraîchement sortis du néant. Me relevant, j'observe les jeunes mâles. Ils ont une envie furieuse de sauter à l'eau. Je m'approche d'eux. Je ne bouge pas, je ne dis rien. Ils me regardent d'un air sournois. Ils ont l'air de penser que j'y suis pour quelque chose, que cette situation est ma faute. Je m'avance pour leur faire face. Soudain, l'un d'eux bondit vers moi. Je me jette sur un tas de neige pour lui échapper. Les autres grognent, les babines retroussées. Passé par-dessus ma tête, le chien a atteint l'endroit où je me tenais lorsque la banquise s'est fendue. Il est comme fou. Il grogne, il gratte, se déchire la gueule sur la glace. Il est en train de dévorer le sang coagulé qui s'est échappé de mon ventre. Les trois autres mâles me scrutent désormais comme une proie. Je me lève brusquement et crie le nom d'Ikasuk. D'un bond, la chienne se place entre eux et moi. Le premier mâle, qui est de l'autre côté, me saute sur le dos. Ikasuk fait volte-face. Il y a des jappements, des grognements, des coups de dents. Enfin, un hurlement strident. La chienne a saisi la gorge de son adversaire entre ses mâchoires. Du sang frais coule sur la neige. Sans relâcher son étreinte, elle fixe les trois autres d'un œil vif. C'est elle qui domine, prête à me défendre. Les jeunes mâles se rendent sans insister. Il la regarde maintenant comme s'il venait simplement de jouer avec elle une bonne partie autour d'un os. Voilà donc la jeune fille, la jeune Inuit, n'a d'autre choix que de survivre par ses propres moyens. Elle va devoir affronter le froid, la nuit, la faim. Sa faim à elle, mais aussi la faim des chiens. Et puis la solitude, bien sûr. L'adolescente taille des blocs de glace pour se protéger du froid. Elle chasse le phoque pour manger. Et puis d'autres animaux du Grand Nord. Les morses, les perdrix, les phoques. Et puis un jour, que faire? Marcher vers les montagnes et la lumière? Ou tâcher de rejoindre le rivage? La glace est encore là pour longtemps, mais elle n'offre pas beaucoup de gibier. Si j'avais avec moi le harpon entier de mon père, je pourrais chasser le phoque. Mais avec les petits bouts de lance qu'il me reste, il n'y faut pas penser. Et puis on ne chasse pas en mer avec les armes qui ont tué sur terre. Les chiens me suivent, j'ai remis la lourde peau sur ma tête. Marcher ainsi sans traîneau, dans la pénombre, est insensé. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Les montagnes sont trop loin, je dois chercher à rejoindre la côte, coûte que coûte. À quelle distance se trouve-t-elle? La banquise ne donne aucun indice. Elle se tord partout comme une onde tourmentée, n'ouvre aucun chemin, que des brisures. Vers la fin de la journée, quelque chose se dessine au loin. Deux petites taches sombres qui se déplacent sur l'horizon. Des attelages. J'entends bientôt les ordres donnés aux chiens. Illy, illy, à gauche. Yon, yon, à droite. Savent-ils seulement où ils vont? L'homme qui dirige le premier attelage lève plusieurs fois les bras vers le second. Leur route semble vouloir croiser la mienne. Se peut-il que de loin ils me prennent pour un ours véritable? Je lance mes chiens sur les leurs. Les deux meutes s'aplatissent face à face en grognant l'une sur l'autre. Les hommes rappellent leurs chiens et s'avancent seuls vers moi. Je pose ma peau au sol pour les attendre. Voilà donc, elle est acceptée par un des attelages et elle va participer de plus en plus à des sorties de chasse, ayant montré beaucoup de talent justement pour tuer les animaux. Parce qu'elle elle avait l'habitude d'aller chasser, de partir chasser avec son père. Dans ce livre, on se sent tout de suite entraîné dans une histoire où vraiment ce qui domine, c'est l'authenticité de l'histoire, justement. La façon dont Bérengère Cournu décrit une nature très belle, bien sûr, mais aussi très hostile. Elle va décrire la vie, le quotidien, les coutumes des Inuits, sans les idéaliser, comme des fois on trouve dans certains livres. Le Grand Nord n'est pas là pour faire, je dirais, un décor exotique, pour faire joli. Non, l'environnement acquiert tout de suite une dimension métaphysique. Tout de suite, Uxuralik, c'est le nom de la jeune fille, Uxuralik, doit faire preuve d'une force de caractère exceptionnelle. Et cette force de caractère, elle la trouve dans son monde intérieur. C'est un roman initiatique, donc on voit une adolescente sans famille devenir femme, puis mère. Elle devient de plus en plus forte, de plus en plus puissante. On la suit dans sa quête spirituelle, où se mêlent chamanisme, tradition ancestrale. Elle sera d'ailleurs initiée à la fin du livre au chamanisme. Et on plonge alors dans une ambiance fantastique où se mêlent rêves, contact avec les esprits, voyage vers l'au-delà, cérémonies rituelles, avec beaucoup de chants. Le livre est parsemé de chants. Chaque fois qu'il y a un événement, il y a un chant. Je vais vous en lire un, le chant de Uxuralik, justement, la narratrice. Longtemps, longtemps j'ai espéré. Longtemps, longtemps je n'ai pas cru. Longtemps, longtemps j'ai promené ce rêve avec moi sur la banquise et la toundra. Longtemps, longtemps j'ai rêvé, imploré, nié, désespéré qu'un nouvel enfant trouve un chemin jusqu'à moi. Aujourd'hui l'enfant est là. Il va emprunter la même route que Ila. Ila, c'est sa première fille. Il y a très longtemps, quand j'étais une très jeune femme. Je me souviens encore comme l'enfant qui passe chatouille les entrailles. Depuis que je sais qu'un enfant est là, qu'un enfant va passer par moi, je ris. Je ris en secret. Je ris comme une brassée de palourdes qui roule depuis les collines jusqu'au galet lourd du rivage. Et depuis plusieurs lunes que le sang bat et reste en moi, j'ai l'impression que sous la banquise, la mer rit avec moi. Pour tout cela et pour le reste, je dis merci à l'étranger qui a surgi un jour pour soigner Ila. Je dis merci à mon gentil mari. Je dis merci à Naja. Merci pour votre écoute. À bientôt. Care.